Odyssée, écrite par Martin Winkler, remise à jour, lue et enregistrée pour Radio Vassivière.
Qu'est-ce qu'une pupille de la nation ? Voici un extrait d'un long article posté sur le site de l'ISH, Institut des sciences de l'homme. C'est en 1917 qu'une loi met en place ce titre de pupille de la nation, unique en Europe. Il permet d'insister sur la situation d'orphelin de la Première Guerre mondiale. Toutefois, il ne s'agit pas d'un orphelin de guerre au sens strict du terme, dès lors que la nation le reconnaît, c'est-à-dire assume un devoir de réparation. Tout commence par un enterrement à proximité des champs de bataille, souvent suivi d'un deuxième enterrement, celui du corps du défunt transféré vers son lieu de naissance. Ce nouvel enterrement impose une hiérarchie. La veuve, puis le fils, les ascendants, puis les beaux-parents, les oncles et les tantes. Dès l'âge de 10 ans, l'enfant du défunt assiste ainsi à une nouvelle sacralisation du deuil. On lui remet les décorations destinées à son père dans la France des années 20, comme à New York, après le 11 septembre 2001. Mon père, Ange Safran, dont le père, Mardoché Safran, est mort sans sépulture en février 1915, à Roclincourt, était pupille de la nation. Mais il n'a pas eu le droit, que je sache, à ce décorum. Il n'a jamais mentionné un second enterrement. En revanche, sa mère, Céleste, tous les 2 ans, recevait de l'État une allocation qui lui permit d'aller chercher la tombe de son défunt mari près d'Arras. Beaucoup plus tard, Ange fit lui aussi ce pèlerinage, sans bien sûr trouver ce que Céleste avant lui y en vint chercher. Il y a très longtemps, quand Ange m'a raconté pour la première fois et probablement de manière très laconique la brève histoire de son père, je me suis rapidement mis à fantasmer que Mardoché, mon grand-père, n'était autre que le soldat inconnu inhumé sous l'Arc de Triomphe à Paris. Je me souviens même y être allé une fois adolescent avec Ange et avoir senti quelque chose en regardant la stèle. Bien sûr, Mardoché n'est pas le soldat inconnu, et je me suis senti ridicule le jour où j'ai appris que le corps sans nom a été ramassé sur le champ de bataille quelques jours, quelques heures peut-être seulement après l'armistice en 1918. Les restes de Mardoché reposent encore quelque part autour de Roclincourt. Peut-être même ont-ils été depuis longtemps déplacés et détruits par un remembrement ou des opérations immobilières. Ils ne seront jamais retrouvés, comme le furent il y a quelques années ceux d'Alain Fournier, tombés dans un bois au milieu de ses camarades. Mais en écrivant ce chapitre, mon fantasme initial m'est revenu et je comprends aujourd'hui qu'il n'avait rien de ridicule. Si le soldat inconnu repose sous la flamme, c'est précisément pour y représenter par son anonymat tous les morts sans sépulture de la Grande Guerre. Dans le texte affiché sur le site de l'ISH, consacré aux pupilles de la nation, Olivier Faron écrit « La première réalité de la situation, souvent passée sous silence par les historiens, est celle du nombre. Les morts laissent derrière eux plus d'un million d'orphelins, pour environ 600 000 veuves. Les impressions des enfants orphelins semblent converger en premier lieu autour de la sensation d'une perte irrémédiable. Le souvenir du père très furtif pour des enfants en bas âge devient central après le conflit dès lors qu'il s'agit de constituer une mémoire familiale que résume Henri Kefelec. J'ai été élevé par ma mère dans ce qu'elle appelait le souvenir de mon père. La notion combinait les souvenirs que ma mère gardait de son mari au souvenir idéal qu'une famille et un pays se devaient de garder d'un homme qui était mort pour les défendre. Trois grands facteurs de détresse se dessinent alors. La précarité économique. Les veuves, sans activité avant le conflit, deviennent journalières, ouvrières, brodeuses. Les bouleversements familiaux. La recomposition du noyau familial ne s'effectue pas aisément. Parfois, les veuves retournent vivre chez leur mère avec leurs enfants. Parfois, elles se remarient ou cohabitent chez un membre du défunt. Il arrive que les pupilles soient replacées chez les grands-parents, tantes, cousins. L'entrée dans un monde endeuillé. Parmi les témoignages, des phrases reviennent. On ne vivait qu'avec la mort. La vie des enfants est ainsi mêlée de solitude, de crainte et d'angoisse. Olivier Faron souligne également la part des mouvements de solidarité déclenchés par la coupe sombre qu'a subie la génération des soldats morts en 14-18. Ce vaste élan de secours privés en provenance de tous les milieux sociaux et tous les groupes professionnels reflètent bien la diversité de la société française. Toutefois, il s'agit non seulement d'une mobilisation générale de toute la société, mais également d'un processus marqué du sceau de la fragmentation. Peu à peu, cette aide privée va s'internationaliser grâce aux apports financiers des États-Unis. Une fraternité franco-américaine apparaît si vite que les manifestations de solidarité privée passent aux mains de l'action publique. Les colonnes de l'Humanité tirent en 1917 que le Parlement se dresse donc de donner la véritable garantie. La loi de solidarité et d'assurance sociale que tous attendent. Une loi sera élaborée en juillet 1917. Le principe de solidarité nationale oblige la France à réparer les effets des conséquences de la guerre, comme de la mort prématurée du père, dont le déclassement de la famille. Cette loi aura deux effets importants. La définition du statut de pupille, à la fois souple et gratifiant, doit être reconnue par un tribunal civil avec ajout d'une mention sur l'acte de naissance. Il renvoie aux victimes civiles et militaires comme aux invalides. La mise en place d'organismes destinés à assurer la protection du pupille afin qu'il puisse bénéficier d'un développement normal, d'un point de vue matériel comme sur le plan de l'éducation. Le soutien matériel de la nation vise cinq formes d'aide. Des subventions d'entretien, d'apprentissage, d'études, une protection médicale, un pécule. Toutes ces attributions sont calculées en fonction des ressources des allocataires, de l'âge et de la santé des enfants, ainsi que du coût de la vie dans les régions concernées. Sur le long terme, on peut s'interroger sur le rôle qu'a joué l'État en apportant des éléments de réponse à la situation des orphelins. Forcé de constater que la gravité du drame s'installe tout au long de la vie et que le courage presque héréditaire est revendiqué au fil des générations, dans l'unique espoir de voir enfants et petits-enfants grandir dans la paix.
C'était Odyssée, écrite par Martin Vinclair, remise à jour, lue et enregistrée pour Radio Vassivière.